Atlantique Mobile de Banque Atlantique, l'appli mobile totalement gratuite, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'avenir de la MONUSCO déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai que le départ des 16 000 casques bleus est réclamé par les populations et par les autorités qui dénoncent depuis des années la capacité des soldats de la paix à résoudre la crise sécuritaire, à protéger les civils. En tout cas, hier, en conférence de presse à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a souligné qu'en ce moment même, dans l'est du pays, des centaines de milliers de personnes étaient protégées exclusivement par des casques bleus. Pas question donc d'envisager un départ immédiat. Vous êtes sur place, évidemment, vos témoignages, vos réflexions nous intéressent. RFI vous donne la parole, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les matins également sur nos réseaux sociaux. J'en ai déjà quelques-uns sous les yeux, je les lirai tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour à Amadou.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Et merci de nous écouter dans le sud du Niger, à Zinder.
Excusez-moi.
C'est bien ça. Vous avez des questions sur la réconciliation des frères ennemis du Moyen-Orient?
Oui Juan. L'Iran vient de rouvrir son ambassade en Arabie Saoudite après 7 ans de sans fermeture.
Oui.
Alors, est-ce d'autres actions sont-elles prévues afin de renforcer les relations diplomatiques irano-saoudiennes?
Oui, c'est vrai que les relations se normalisent entre Téhéran et Riyad après 7 ans de brouille, comme vous le disiez, Amadou. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international de RFI. La rouverture de l'ambassade d'Iran en Arabie Saoudite, c'est clairement une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays.
Oui, et on peut déjà parler de ce qui est attendu comme prochaine étape, hein, qui sera la réouverture, cette fois, de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran et la nomination de l'ambassadeur. Donc c'est un processus en cours et il faudra attendre qu'il arrive à son terme pour qu'il soit conforme à ce qui a été annoncé il y a quelques mois, le rétablissement de relations qui avaient été effectivement brutalement rompues en 2016. Alors ce processus aura des effets concrets, un dialogue facilité sans intermédiaire, puisqu'il a fallu des intermédiaires pour faire dialoguer les deux pays ces dernières années. Et puis ça aura des effets concrets sur des questions consulaires et on peut notamment penser au pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite, même si ça ne veut pas dire que c'était impossible pour les Iraniens à 100% ces dernières années. Mais au-delà de ces questions diplomatiques, la suite du processus, elle est politique et cela ne veut pas dire que ce qu'on observe actuellement va résoudre facilement les questions qui fâchent.
Ouais, vous avez d'autres questions, Amadou?
Oui, cette entente peut-elle durer malgré les divergences géopolitiques et religieuses de ces deux pays?
Oui, alors c'est vrai que les deux pays s'opposent sur des dossiers régionaux notamment.
Oui, et c'est une excellente question puisqu'il faudra effectivement analyser la portée de ce rapprochement sur des dossiers concrets. Alors on peut en citer quelques-uns, hein. Le Yémen. Au Yémen, pays voisin de l'Arabie Saoudite, l'Iran soutient la rébellion des Houthis. Depuis 2015, l'Arabie Saoudite est en guerre contre cette rébellion. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit qui produit des effets catastrophiques sur les populations civiles. Alors, quelles solutions politiques saoudiens et iraniens peuvent-ils trouver pour ce pays martyrisé? C'est à la fois une urgence et un test de ce rapprochement en cours. Il y a le nucléaire iranien, puisque l'Arabie Saoudite s'estime menacée par le programme nucléaire de l'Iran, auquel il faut ajouter sa dimension missile qui inquiète dans la région. Il n'y a plus de négociation sur le programme nucléaire de l'Iran et cela crée des tensions dans la région et c'est bien sûr l'un des enjeux de la relation Riyad-Téhéran. Il y a également la Syrie, hein, c'est un sujet qui a beaucoup opposé Iran et Arabie Saoudite, mais là il y a du changement puisqu'on a vu que l'Arabie Saoudite avait œuvré pour réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe. Donc là c'est peut-être quelque chose sur lequel le dialogue peut s'enclencher.
Et quid des divergences religieuses? Le point a été soulevé par notre auditeur Amadou.
Alors, c'est effectivement intéressant de se poser la question. La méfiance, la rivalité sont immenses entre ces deux puissances. L'antagonisme est beaucoup plus politique, géopolitique que religieux, même si c'est vrai que l'Iran est chiite, l'Arabie saoudite chiites sunnites, et même si ce sont deux systèmes qui s'opposent sur leur rapport aux religieux, entre une monarchie saoudienne qui se pose en gardienne des lieux saints de l'islam et une république islamique d'Iran qui conteste ce privilège saoudien depuis la révolution iranienne de 1979.
Amadou, a-t-on répondu à vos deux questions ?
Oui, Juan, merci à vous. Et permettez-moi de saluer mon ami fidèle de l'émission Appel sur l'actualité. Il s'appelle Abdou Abdelbeji.
Ah ben si c'est un fidèle de l'émission, on le salue également. Bonne journée à Zinder. Un grand merci à Nicolas Falaise d'être venu dans ce studio, journaliste au service international de RFI. 8h16 en temps universel, 10h16 à Paris. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la Radio Mondiale qui fait un excellent travail de tous les temps.
Ah, merci de vos encouragements, ça nous fait plaisir. Adrien, vous avez des questions sur la situation sécuritaire dans l'extrême nord du Tchad.
Oui, de nouveaux affrontements ont eu lieu la semaine dernière entre l'armée tchadienne et les deux groupes rebelles dans le nord du pays. Pourquoi la rébellion persiste dans le pays ?
Ah, c'est une bonne question que vous posez, effectivement. Bonjour Ezra Zikoumana.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Journaliste au service Afrique de RFI, des affrontements entre l'armée et deux groupes rebelles. Le Front de la Nation pour la démocratie et la justice et le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République. Expliquez-nous, Ezra, pourquoi ces deux mouvements rebelles sont toujours actifs.
Oui, c'est vrai, Juan, qu'à première vue, on est plutôt étonné de voir la rébellion persister dans le pays, alors que le gouvernement se targue d'avoir signé le 8 août dernier un accord de paix avec une quarantaine de mouvements politico-militaires. C'était à Doha après plusieurs mois de négociations. Le problème, c'est qu'il s'agit essentiellement de groupes qui avaient déjà fait la paix avec N'Djamena ou des chefs sans combattants, explique Roland Marchal, c'est un spécialiste de la région. Les quelques 5 à 6 principaux mouvements politico-militaires, ceux qui ont des armes et des hommes, eh bien, ils font partie des 18 non-signataires de l'accord de paix, parmi eux notamment le FARC de Mahamat Mahdi Ali, ou encore le FNDJT ou le CCMCR. Ce sont ces deux mouvements qui se battent justement dans le Nord.
Alors voilà pour les explications. Vous avez d'autres questions, je crois, Adrien.
Oui, Juan, cette menace rebelle peut-elle perturber la tenue du référendum constitutionnel en novembre et l'élection présidentielle prévue en 2024?
Alors, Ezra Zikoumana, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal.
Ah non, je ne suis pas assez devin pour répondre à cette question par, oui ou par non. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que l'on entend de plus en plus de bruits de bottes au nord du Tchad et dans le pays, en fait, selon plusieurs spécialistes du pays. Même le porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, a reconnu il y a quelques jours qu'il y avait des menaces de toutes parts, en ajoutant toutefois que le pouvoir de transition était prêt à y faire face.
Oui, et ces menaces viennent de tous les côtés.
Oui, dans l'extrême nord du pays, du côté de la Libye, par exemple. Il y a ces affrontements qu'on a signalés entre donc, le FNDJT et le CSMR contre l'armée, c'est dans le Tibesti. Mm-hmm. Au sud, de nouvelles rébellions qui ont leur base arrière dans le nord de la Centrafrique voisine sont signalées. Et bien, après plusieurs attaques de villages dans le sud du Tchad, et bien, le pouvoir de transition a contre-attaqué et aurait anéanti l'un des deux mouvements.
Et puis il y a aussi la menace Boko Haram.
Il y a enfin la menace, oui, Boko Haram dans le sud-ouest et djihadiste dans l'ouest, sans parler surtout de la guerre qui se déroule à l'est du Tchad. Au Soudan, les spécialistes estiment que c'est un foyer supplémentaire de tension si on se rappelle surtout que les rébellions tchadiennes qui sont arrivées à N'Djamena ou dans les environs, eh bien toutes venaient du Darfour.
Et les prochaines échéances électorales dont parlait à l'instant Adrien, elles seront de nature à accroître toutes ces tensions ?
Oui, les négociations de Doha, le dialogue national inclusif et souverain de N'Djamena, la répression sanglante du 20 octobre dernier, le sentiment qu'on est revenu aux mauvaises pratiques de l'époque d'Idriss Déby paierait bien. Tout ça suscite donc beaucoup d'inquiétudes, tout ça, beaucoup de frustration, de rancœur chez les opposants. Eh bien, si on ajoute donc que le pouvoir prévoit un référendum qui est crucial en novembre et des élections générales l'année prochaine, eh bien, en l'absence de nombreuses forces politiques qui crient au hold-up, on constate que certaines politiques sont tentées aujourd'hui de prendre les armes. D'autres comme le FACT ou le FNDJT ont eu beaucoup d'argent dernièrement. Ils sont en train de recruter et de s'armer selon nos sources.
Et il faudra compter avec l'armée tchadienne.
Oui, le pouvoir tchadien est considéré comme un pilier, un verrou dans la sécurité régionale. Son armée est réputée la plus aguerrie de la région et le Tchad peut compter sur l'aide et le soutien militaire de la France en cas de grave danger, comme on l'a vu à plusieurs reprises au cours des dernières années. Eh bien, difficile donc de prédire l'avenir, mais le Tchad nous a toujours réservé des surprises sur le plan militaire. Attendons voir ce qu'il en sera cette fois.
Et on en parlera certainement demain dans la Libre Antenne. Vous êtes au Tchad et vous souhaitez réagir à cette actualité, n'hésitez pas, profitez-en. Le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Adrien, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci beaucoup pour les réponses apportées à ma préoccupation et bonne journée à vous.
Et bonne journée à Maroua, au Cameroun. Ezra Zikoumana, à bientôt.
Merci.
Journaliste au service Afrique de RFI. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat sur l'avenir des casques bleus, des 16 000 casques bleus déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle alternative aux casques bleus en cas de départ? Vous nous appelez 33 9 693 693 70. On va parler justement de la République démocratique du Congo avec Jean-Baptiste. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous avez des questions sur la polémique autour de la loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale.
Oui, alors bien sûr, à la RDC, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant sur la répartition de sièges pour les prochaines élections, en décembre prochain bien sûr.
Oui.
À ma préoccupation est celle-ci, pourquoi l'opposition conteste-t-elle cette adoption alors que la centrale, elle, s'en félicite?
La centrale électorale, la CENI, effectivement. Alors c'est vrai que l'adoption de cette loi qui a été, je le précise, votée à l'unanimité par les députés qui étaient présents ce jour-là à l'hémicycle, mais l'opposition, elle, elle était absente. Hein. Elle a boycotté la séance. Bonjour Bob Kabamba.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. L'adoption de cette loi, c'est quand même une étape importante hein, dans le processus électoral en vue des élections de décembre. Que reproche exactement l'opposition à cette loi?
Alors, l'opposition a relevé plusieurs griefs. Hein. Après la publication du rapport de l'Église catholique et de l'Église protestante sur le processus d'enrôlement, ils avaient relevé quand même qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup d'entraves qui permettaient de voir la liste électorale comme une liste crédible. Et donc, il y avait le problème des machines qui tombaient en panne, il y avait le problème de bureaux fictifs, il y avait le problème des machines qui étaient, des machines d'enrôlement qui étaient entre les mains des particuliers qui procédaient eux-mêmes en dehors de la CENI à l'enrôlement des électeurs. Et puis, il y a un fait nouveau, d'autres faits nouveaux, notamment les cartes d'électeurs qui ont été distribués donc, pour pouvoir participer aux élections, ces cartes d'électeurs, certaines données s'effacent, notamment oui. La photo. Alors si les photos s'effacent certaines données, cela va compliquer un peu la suite des processus. Ensuite, il y a encore plus grave, Juan, c'est que plusieurs territoires n'ont pas été enrôlés. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui sont dans des territoires où il y a bien sûr des groupes armés, n'ont pas été enrôlés. Et donc, et la loi dit simplement que lorsque l'on établit la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, on tient compte effectivement des électeurs qui ont été enrôlés.
Oui.
Alors ici, on a assisté à une espèce de arrangement où on a donné des sièges à des territoires qui n'ont pas été enrôlés, vraiment en violation un petit peu de la loi.
Oui,
pour
que les choses soient bien claires, hein, Bob Kabamba,
oui.
Pour ceux qui nous écoutent,
oui.
C'est que la répartition des sièges, elle est calculée en fonction du fichier électoral. Mais comme le fichier électoral est contesté, eh bien c'est tout le processus qui est remis en cause par les opposants.
Tout à fait, c'est tout le processus qui est remis en cause et cette loi de la répartition est la preuve faltante que cette répartition n'est pas légale.
Oui.
Et ensuite, il y a la question de l'audit. L'audit de ce fichier qui s'est fait en 5 jours par 5 experts qui ont été engagés par la CENI. Et je rappelle aussi que l'OIF, à l'époque, avait décliné l'offre de pouvoir auditer ce fichier du fait que le temps imparti pour pouvoir le faire était trop court et qu'on ne pouvait pas faire un travail de qualité en si peu de temps.
Et du coup, l'opposition, elle réclame une contre-expertise, c'est-à-dire un nouvel audit, réalisé cette fois par un cabinet international. Visiblement, ce n'est pas dans les projets de la commission électorale, qui, elle se félicite de cette loi, elle se félicite de tout le travail réalisé jusqu'à ce jour. Qu'en pensez-vous en tant que professeur de sciences politiques ?
Oui, l'administration électorale ne peut que se féliciter parce qu'elle avait fait une feuille de route. Et sur cette feuille de route, il y avait quand même plusieurs entraves. Malgré ces entraves, elle avance sur son calendrier. Malheureusement, en avançant dans son calendrier toute seule, sans avoir l'adhésion de ce qu'on appelle les parties prenantes, on va vers une espèce de processus qui sera contesté. Et au Congo, quand on conteste les élections, on sombre dans la violence.
Oui. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous souhaitez réagir justement à l'adoption de cette loi. N'hésitez pas, hein, demain, vendredi, libre antenne. Et mon petit doigt me dit que certains d'entre vous prendront la parole justement sur cette contestation de l'opposition. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Je souhaite une belle journée à Jean-Baptiste qui nous écoute à Kinshasa. Et on termine avec vous cette première partie. Bonjour Souradjou.
Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio RFI.
Comment allez-vous à Parakou au Bénin?
À Parakou. beaucoup, je vais très bien.
Bon, merci infiniment de votre fidélité. Souradjou, vous avez des questions sur la prochaine élection présidentielle aux États-Unis?
Oui, Juan, l'ex vice-président de M. Donald Trump, Mike Pence, a déposé sa candidature à la Maison Blanche pour l'investiture républicaine.
Oui.
Je voulais savoir, Juan, quel est le poids actuel de M. Mike Pence dans le camp républicain?
Ah, quel est son poids? Quel est son poids? A-t-il des chances? Bonne question. Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à l'université, je vais retrouver ma petite fille, je disais ça de tête, à l'université Paris-Panthéon-Assas, bien évidemment. Vous êtes spécialiste de la politique américaine. Jean-Éric Brana, soyons directs, Mike Pence pèse très très peu au sein des Républicains.
Ouh, on va être un petit peu moins direct.
Ah bon, d'accord. Puisque... Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il était loin d'être le grand favori, mais il a peut-être un certain poids là.
Dans les sondages, mais l'élection américaine n'a rien à voir avec les sondages. L'élection américaine se joue État par État, vous le savez que trop bien, Juan, puisque ça commence par l'Ohio, puis ensuite c'est le New Hampshire, puis ensuite c'est le Nevada, puis c'est la Caroline du Sud. Et en réalité, il y a un effet de boule de neige comme ça, quand on gagne les premières élections, les gens se disent « Ah, finalement, pourquoi pas ?» Donc ce qui se dit aujourd'hui n'aura peut-être plus aucune valeur dans 6 mois. Alors Mike Pence, il est très intéressant, d'abord parce qu'il est ancien vice-président, ce qui veut dire qu'il a un poids certain auprès de la population, et tout le monde le connaît. Ensuite, il est l'ancien gouverneur de l'Indiana et il s'est fait connaître en tant que très conservateur et très évangélique, il faut quand même le dire. Il était notamment celui qui était à l'origine de cette polémique sur les gâteaux avec les personnes gays, c'est-à-dire qu'il soutenait le fait que quelqu'un pouvait, au nom de ses convictions religieuses, ne pas travailler pour un couple gay. Et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et ça lui a donné bien sûr une très grande aura auprès des évangéliques et du milieu conservateur. Mais surtout, en tant qu'ancien vice-président de Trump, il connaît la machine de l'intérieur, et c'est le seul que Trump ne pourra pas attaquer directement, parce que Mike Pence est entendu en ce moment par la justice américaine et que Trump en a une peur farouche. Donc, on va être très, très réservé sur ce que peut être Trump.
Mais en tout cas, à l'instant T, Jean-Éric Brana, il n'est crédité que, à peine 4% d'intention de vote.
Si vous voulez, ça dépend des sondages. Mais encore une fois, ce sont des sondages nationaux qui ne veulent absolument rien dire, parce que quand ça va commencer dans l'Iowa, elle s'est taillée sur mesure pour Mike Pence, puis ensuite c'est le New Hampshire.
Et l'Iowa, excusez-moi, c'est l'endroit qu'il a choisi hier pour lancer officiellement sa campagne avec un discours.
Et oui, c'est là où aura lieu le premier vote dans la primaire républicaine. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a attaqué directement Trump en disant écoutez, il m'a demandé de choisir entre lui et la démocratie et la Constitution américaine. J'ai choisi de défendre la Constitution américaine. Oh là, ça parle aux conservateurs.
Oui, ça parle aux conservateurs, mais pas forcément à toute la base qui soutient encore Donald Trump. Et ils sont nombreux.
Là-dessus, je n'en sais rien, capitaine. Ça dépendra un peu de ce qui va se passer aujourd'hui, puisqu'on nous dit que Donald Trump pourrait être mis en examen aujourd'hui au niveau fédéral. Et c'est bien là-dessus que Mike Pence fait son pari. C'est-à-dire que s'il se dit que si Donald Trump ne survit pas à cette énième attaque judiciaire, dans laquelle, je le rappelle, il est lui-même impliqué comme témoin, il, à ce moment-là, lui, il a toutes ses chances.
Trump empêtré dans une série d'affaires judiciaires, on suivra ça bien évidemment. Merci infiniment Jean-Éric Brana d'avoir pris quelques instants pour répondre à Souradjou de Parakou. Je rappelle l'un de vos ouvrages, Jean-Éric Brana, La géopolitique des États-Unis, c'est publié aux éditions Presse universitaire de France. Merci à tous de votre fidélité, de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous souhaitez nous poser des questions, eh bien profitez-en. Le standard reste ouvert et on sera de retour demain matin dès 8h10 temps universel. Je vous rappelle notre numéro, le 33 9 693 693 70. Et vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous poster en message privé, évidemment, vos coordonnées. Le principe de l'émission, c'est de vous entendre, de vous donner la parole, que vous puissiez vous-même poser vos questions aux experts d'Appel sur l'actualité.